You're with SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 20 août. À Sydney, des manifestations sont prévues à l'extérieur du Parlement alors que le Sénat examine aujourd'hui le projet de loi visant à dépénaliser l'avortement. À Gibraltar, le pétrolier iranien immobilisé depuis le 4 juillet à la demande des Américains a été autorisé à reprendre la mer. Et en France, rencontre cordiale mais musclée entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine quelques jours avant le sommet du G7 à Biarritz. Et donc de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui devant le Parlement des Nouvelles-Galles du Sud à Sydney, où le Sénat doit débattre ce jour sur le projet de loi visant à dépénaliser l'avortement. Le texte de loi en question a déjà été approuvé par la Chambre basse à une large majorité, 59 voix pour et 31 contre. Les manifestants doivent se rassembler sur Martin Place, qui se trouve juste à côté, où ils organiseront également en début de soirée une veillée. Et puis à côté de ces manifestants qui s'expriment dans la rue, certains hommes politiques tentent également de peser de tout leur poids sur ce débat. C'est notamment le cas de Barnaby Joyce qui a mis en place un système d'appel téléphonique préenregistré qui a été reçu par de nombreux habitants des Nouvelles-Galles du Sud et dans lequel on peut entendre l'élu conservateur demander aux électeurs de s'opposer à ce texte de loi. On écoute tout de suite un extrait du message enregistré par Barnaby Joyce.
I'm calling on behalf of the Foundation for Human Development about the abortion bill in the New South Wales Parliament. This allows sex-selective abortions. It legalises abortion for any reason right up until the day of birth.
Et puis, c'est une information révélée par nos confrères de ABC. L'armée australienne envisagerait très sérieusement de déployer des équipements en Antarctique. Plus précisément, il s'agirait d'équipements technologiques dont les applications pourraient être civiles, mais aussi militaires. Et c'est bien là le problème, puisqu'en vertu du traité sur l'Antarctique, dont l'Australie est signataire, tout déploiement militaire sur ce qu'on appelle le sixième continent est totalement interdit. Mais on précise néanmoins que la Chine, les États-Unis et la Russie ont déjà installé en Antarctique des systèmes de navigation satellitaire qui peuvent potentiellement être utilisés à des fins militaires. Et puis peut-être bientôt du nouveau sur les emballages de nos aliments. Les ministres de la Santé ont commandé une étude dont l'objet serait de rendre obligatoire l'affichage sur les produits alimentaires et les boissons, la quantité de sucre qui se trouve à l'intérieur. Le forum ministériel sur la régulation alimentaire auquel participent l'Australie et la Nouvelle-Zélande vise en particulier les boissons sucrées comme les sodas. Et cette nouvelle signalétique pourrait prendre la forme de petites cuillères à café remplies de sucre. On rappelle à ce sujet que l'Australie est l'un des pays les plus obèses du monde et ce problème, même s'il est connu et identifié depuis des années, tend à s'aggraver à chaque nouveau bilan. Direction maintenant la France et plus précisément le fort de Brégançon dans le sud où le président Emmanuel Macron a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine quelques jours avant le G7 qui se déroulera à Biarritz. Une rencontre cordiale mais néanmoins tendue puisque les désaccords entre les deux chefs d'État sont nombreux. On fait le point avec Valérie Gast de RFI.
Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il y a toujours un moment où l'entretien tourne au rapport de force. Et cette fois-ci, c'est Vladimir Poutine qui a lancé les hostilités. À une question sur les arrestations d'opposants en marge des manifestations de Moscou pour réclamer des élections libres, il a répondu en évoquant les gilets jaunes. Faisant mine d'être gêné, Vladimir Poutine a rappelé les manifestations qui ont eu lieu en France et a même énuméré des chiffres. 11 morts, 2500 blessés, des chiffres que la traductrice n'a pas donné exactement. Puis il a terminé en souhaitant ne pas connaître de tels événements en Russie. Emmanuel Macron n'a pas laissé passer le tacle.
En France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison. Ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public, parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. C'est la différence entre la liberté qui suppose l'ordre public, protégé constitutionnellement, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le non-respect de liberté lorsque des gens ont cette liberté réduite. Voilà.
Décidé à avoir le dernier mot, Vladimir Poutine a repris la parole après Emmanuel Macron pour enfoncer le clou. Derrière les sourires, les amabilités et même la volonté affichée de travailler ensemble sur les grandes crises, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont toujours prêts au bras de fer. Valérie Gasse, Brégançon, RFI.
Et on retourne maintenant dans l'hémisphère sud, tout près de l'Australie, pour parler de la Papouasie occidentale, non pas le pays, mais la province qui fait partie du territoire indonésien. Hier, une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes a dégénéré, avec notamment l'incendie de magasins, mais aussi et surtout du Parlement local. Les autorités indonésiennes ont depuis repris le contrôle dans cette région où les rapports avec Jakarta sont particulièrement tendus. On fait le point avec Elena Tomic pour RFI.
Magasins et véhicules incendiés, panneaux de signalisation arrachés, jets de pierre sur des bâtiments officiels, la manifestation à Manokwari, la capitale de la Papouasie-Occidentale, a très vite sombré dans la violence. Cette région est marquée par une rébellion indépendantiste sporadique contre le gouvernement indonésien. À l'origine des émeutes, des propos racistes que les autorités indonésiennes et la population locale auraient adressés à des étudiants papous durant le week-end à Surabaya sur l'île de Java. 43 étudiants accusés d'avoir détruit un drapeau indonésien en pleine fête de l'indépendance auraient été placés en détention, interrogés par la police, puis relâchés. Ces incidents sont les derniers en date dans cette province parmi les plus pauvres d'Indonésie et où l'armée a été accusée par les ONG de violation des droits de l'homme contre la population mélanésienne. L'ancienne colonie néerlandaise a déclaré son indépendance en 1961, mais sa partie occidentale, riche en ressources naturelles, a été occupée de 2 ans plus tard, puis officiellement annexé par l'Indonésie en 1969.
Et on passe la frontière pour parler maintenant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vient de demander à l'Australie une aide budgétaire directe $1,5 milliard. Alors, ce n'est pas la première fois que Port Moresby fait ce genre de demande qui a justement jusqu'à présent toujours été refusée par l'Australie qui donne déjà $600 millions par an à la Papouasie-Nouvelle-Guinée au titre de l'aide au développement. Mais cette nouvelle demande intervient quelques semaines seulement après que James Marape, le Premier ministre papouasien, a demandé à la Chine de rembourser l'intégralité de la dette papouasienne. Et c'est pourquoi le travailliste Richard Marles a estimé sur ABC que le gouvernement australien devrait examiner cette demande avec beaucoup de précautions. On l'écoute.
That is a very big request that's been made by PNG. It's not something that Australia has done for some time. But it does highlight how important it is to make sure that we get our relationship with the Pacific, and in this case Papua New Guinea, which is the lion's share of the Pacific by population, right.
Et encore un mot sur la Papouasie, dont le gouvernement vient d'annoncer que tous les demandeurs d'asile se trouvant encore sur Manus Island pouvaient désormais s'installer dans la capitale, Port Moresby. Une annonce plutôt bien accueillie par Amnesty International, qui dénonce habituellement les atteintes aux droits de l'homme qui se déroulent sur ce camp de détention, mais qui a également précisé, Amnesty International, qu'il était très improbable que ces réfugiés qui accepteraient d'être transférés dans la capitale papouasienne et accès à de meilleurs services que sur Manus Island. Et quant à l'Australie et sa potentielle implication dans cette affaire, ça n'est pas encore très très clair. On part maintenant à l'autre bout du monde, on retourne en Europe, direction Gibraltar, où les autorités ont autorisé le pétrolier iranien Adria Narya à reprendre la mer après avoir été immobilisé pendant plus d'un mois à la demande des Américains. Décryptage depuis Téhéran avec le correspondant de RFI, Zirvosh Ghazi.
Le super pétrolier iranien a finalement pu quitter dimanche soir le port de Gibraltar après 45 jours de détention, les autorités du Rocher ayant refusé de se plier aux demandes américaines. Quelques heures plus tard, Abbas Mousavi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que Téhéran avait averti Washington contre toute tentative de saisir le navire iranien dans les eaux internationales.
La République islamique d'Iran, à travers les canaux officiels, notamment l'ambassade suisse, a donné les avertissements nécessaires aux responsables américains. S'ils commettent une telle erreur, cela aura de graves conséquences.
Le pétrolier fait actuellement route vers la Grèce alors que les États-Unis ont imposé des sanctions très dures contre l'Iran, notamment pour ramener à zéro ses exportations pétrolières. La Grande-Bretagne avait saisi le pétrolier iranien le 4 juillet à la demande de Washington en affirmant que le navire voulait se rendre en Syrie, qui est sous embargo pétrolier de l'Union européenne, ce qui avait provoqué une grave crise entre Téhéran et Londres. Deux semaines plus tard, Téhéran avait saisi un pétrolier britannique dans la région du Golfe Persique. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, il faudra attendre la décision de la justice iranienne pour une éventuelle libération du pétrolier britannique. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Et maintenant un mot très rapide à propos de la crise qui se déroule à Hong Kong depuis maintenant une dizaine de semaines, et crise à propos de laquelle les géants du net ont décidé de prendre position, puisqu'on a appris que Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, ont annoncé avoir bloqué plusieurs centaines de comptes, mais aussi des pages qui auraient été créées par l'État chinois, ou en tout cas pour le compte de l'État chinois, afin de mener une campagne de désinformation. Et puis, on se dirige maintenant vers le Royaume-Uni, où, comme vous le savez, le sujet principal, c'est évidemment le Brexit. Et justement, le Brexit, on semble s'orienter pour l'instant vers une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans accord, ce qui fait peur à beaucoup de monde en Grande-Bretagne. Et conséquence un peu étonnante, le marché de l'immobilier est en plein boom, puisque beaucoup d'Anglais voient dans cet investissement dans la pierre un investissement refuge au cas où effectivement ce Brexit sans accord devait se faire et avec des conséquences économiques qui semblent assez dangereuses. On fait le point avec Mohamed Amin Kehel pour RFI.
Dans son rapport, le plus grand site web immobilier du Royaume-Uni s'étonne de la hausse des ventes ce mois-ci. Depuis 2015, jamais autant de logements n'avaient été vendus en août, une période habituellement creuse et peu propice à l'achat. Pour ce professionnel du secteur, cette situation s'explique par une combinaison de facteurs. D'abord, à l'approche du 31 octobre, date à laquelle le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne, beaucoup de vendeurs se précipitent car ils ne savent pas à quoi ressemblera le marché de l'immobilier après le Brexit. Ensuite, les prix attractifs du moment incitent à conclure un achat. En règle générale, en août, les acheteurs sont moins nombreux. Il y a donc moins de concurrence pour acquérir un bien immobilier, mais les propriétaires, ceux qui vendent donc et qui veulent vendre vite surtout, ont aussi moins le choix pour négocier leur prix. Ces personnes vont donc plus facilement baisser leurs exigences pour assurer leur vente. Résultat, le prix moyen d'un logement a chuté d'environ 1% en août, alors que le prix de l'immobilier était plutôt en augmentation depuis janvier.
Et on lève maintenant les yeux vers le ciel pour faire un point sur la météo de ce mardi en Australie. Il fait beau, mais un peu frais à Sydney avec 17 degrés. Quelques averses à Melbourne où il fait 15 degrés. Grand soleil à Brisbane avec 23 degrés. Pareil à Perth où il fait 21 degrés. En revanche, il pleut à Adelaide et il ne fait que 15 degrés. Il pleut et en plus le vent souffle fort à Hobart où il fait aussi 15 degrés. À Canberra, parka obligatoire avec seulement 11 degrés. En revanche, parka interdite à Cairns avec 27 degrés. Et à Darwin aussi, où le thermomètre va monter aujourd'hui jusqu'à 33 degrés.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.